France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Presque 7h40 sur France Culture, le logement, sujet à la fois technique et politique, mais aussi très, très quotidien pour tous les Français. Des expulsions à l'encadrement des loyers, de l'accès pour les personnes à mobilité réduite, aux questions liées au littoral, beaucoup de dossiers à rouvrir ce matin avec notre invité. Passé par Bercy auprès de Pierre Moscovici, puis Emmanuel Macron, Julien de Normandie est aujourd'hui secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Élan comme évolution du logement et aménagement numérique, un projet de loi présenté en avril au Conseil des ministres, adopté en première lecture le 12 juin à l'Assemblée, examiné aujourd'hui en commission des affaires économiques. On va commencer avec Montesquieu et l'esprit de la loi. Quel est celui de cette loi, de ce projet que vous avez porté, assouplissement ou déréglementation ?
L'esprit de la loi, et vous avez raison de toujours revenir à cet esprit de la loi, c'est d'apporter des solutions aux besoins des Français, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, le logement, c'est un secteur qui touche évidemment le quotidien des Français, mais qui, pour beaucoup de nos concitoyens, sont parfois synonymes d'obstacles. D'obstacles, par exemple, pour trouver un travail. Vous avez des milliers de personnes qui, chaque année, ne trouvent pas de travail ou refusent une offre d'emploi, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le logement qui va avec. Et donc, en France, on a un véritable problème de logement à plusieurs titres. On a un gros problème de logement parce qu'il en manque. Il en manque plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions. Et donc il faut, et c'est là un des objets, un des éléments de l'esprit de la loi, il faut faciliter l'acte de construction. Faire en sorte que demain, ce soit possible de construire plus vite, de construire mieux, de construire aussi moins cher. Et puis ensuite, le logement est également synonyme parfois d'assignation à résidence. Qui est un élément, moi, en tant que marcheur historique, qui a accompagné Emmanuel Macron tout au long de sa campagne présidentielle, qui a participé au projet présidentiel, cette assignation à résidence, c'est l'une des choses les plus odieuses dans notre société.
Vous avez manqué de toi pendant votre longue marche.
Mais ce que je veux dire par là, j'ai bien compris votre message, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette assignation à résidence, vous savez.
Donc vous voulez instaurer de la mobilité aussi dans le logement. C'est
exactement.
Important juste de revenir sur cette question, sur l'esprit de ce texte que vous avez porté, Julien de Normandie. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la réglementation du permis de construire jusqu'à la question du changement de logement est trop rigide ?
Elle ne donne pas suffisamment part à la liberté des acteurs, très clairement. Donc oui, elle est trop rigide, par un empilement de normes. Vous savez, durant le dernier quinquennat, c'est entre 60 et 90 textes réglementaires nouveaux qui ont été passés. Nous avons pris un engagement très simple, c'est de ne rajouter aucune nouvelle norme, sauf des normes, bien évidemment, de sécurité. Donc oui, elle est trop rigide. Il faut aussi laisser cours à l'innovation de la part des acteurs. Un exemple qui est criant, c'est ce fameux code de la construction. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont eu à porter un projet de construction, vous savez, ce code, aujourd'hui, est plus épais que le code civil, que le code du travail. Il est prescriptif. Il empêche tous ceux et toutes celles qui souhaitent innover dans la construction. Et l'innovation, ça ne veut pas dire une moindre qualité. Pas du tout, mais ça veut dire aussi trouver de nouveaux matériaux, trouver de nouvelles techniques. Donc le projet de loi que je porte avec Jacques Mézard, il permet justement de libérer ses énergies, de donner libre cours à cette innovation et encore une fois d'apporter des solutions très concrètes pour la construction, pour la mobilité.
Parce qu'il y a beaucoup de points effectivement à aborder. Vous disiez dégrossir un peu cette réglementation et le code qui va avec. À l'Assemblée, plus de 3000 amendements. C'est une opposition en rafale qui s'est présentée face à ce texte. Pourquoi aussi peu de consensus quand l'esprit de cette loi semble être assez simple et devrait être partagé par tous, construire plus, mieux et moins cher?
Vous avez différents types d'amendements. Vous avez des amendements d'obstruction et vous avez des amendements qui visent à améliorer le texte. Et très clairement, ces débats qui ont duré longtemps à l'Assemblée, qui vont débuter, vous l'avez dit, au Sénat, ces débats ont été de très grande qualité. Les parlementaires n'étaient pas du tout dans un état d'esprit d'obstruction. Mais ce qui est vrai, c'est que ce projet de loi logement est un projet de loi qui déverrouille tous ces verrous que nous voyons dans énormément de domaines. Ce qui explique le nombre d'amendements. Pourquoi énormément de domaines? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce secteur du logement, il est trop souvent verrouillé, sclérosé, avec certains qui défendent quelques rentes, d'autres qui ne veulent pas faire évoluer le système. Et donc, on a un texte qui est courageux. On a un texte qui met beaucoup de sujets sur la table. Et donc, de facto, des parlementaires qui ont voulu enrichir ces différents éléments du texte et qui ont déposé beaucoup d'amendements. Mais toujours dans un grand respect du débat démocratique.
Alors ça, c'est du côté du Parlement. Et puis, il y a les professionnels de l'habitat, du logement, et parmi eux, les architectes. Je vous propose d'écouter la voix d'un architecte atypique, Patrick Bouchain. Il a inspiré le collectif Encore Heureux et il s'exprimait autour de cette table en mai dernier sur la future loi Elan et la remise en cause de la corporation des architectes qu'elle entraîne.
Les architectes donc pensent appartenir à une corporation hyper protégée. Moi, depuis très longtemps, je pense que cette corporation est limitée. Les paysagistes, les designers, les ingénieurs participent à l'acte de construire. Il n'y a pas que les architectes. Et donc, l'Ordre des architectes, très tôt, a voulu défendre le port du titre, ou la défense de l'architecture au sens classique du terme. Alors, c'est sûr qu'une loi qui dit que des organismes sociaux n'auront plus besoin de faire de concours pour désigner des architectes pour réaliser du logement social, si vous êtes dans une corporation, vous pensez que votre corporation est atteinte. Mais dans la vie, il faut quand même porter un regard critique sur soi-même et sur l'architecture. Quand on voit donc l'ensemble des grandes cités qui ont toutes été construites par des architectes, ou l'ensemble donc des grandes surfaces commerciales qui sont toutes construites par des architectes, on ne peut pas, en travers cela, s'apercevoir que c'est une garantie de la qualité architecturale. Donc il faudrait peut-être aller au-delà de la simple défense de la corporation.
Alors, bon, compliqué au Parlement, mais comment ça se passe après avec les acteurs de terrain? Est-ce que vous êtes frappé, vous allez nous dire, peut-être sidéré par l'immobilisme des corporatismes, ou tout ça se fait dans le dialogue?
Il y a beaucoup de dialogue, énormément de dialogue. Après, quand vous bougez des lignes, vous avez forcément des mouvements de résistance, ce que je comprends, évidemment. Et vis-à-vis des architectes, moi je les ai reçus, j'ai beaucoup dialogué avec eux, et j'insiste sur un point parce que énormément de choses ont été dites. En aucun cas la loi ne revient sur le rôle de l'architecte, en aucun cas. Mais comme le dit la personne que vous avez mentionnée, ses propos sont très justes. L'esprit de ses propos est exactement l'esprit de la loi. Il est au final de dire, aujourd'hui, vous avez un cadre qui définit les rôles de chacun, qui dit, un architecte devra se comporter de telle et telle manière avec l'entreprise, avec le maître d'ouvrage. Et donc, en fait, on a créé un système qui est figé. Vous savez, dans l'après-guerre, on appelait ça cette économie de rattrapage. Dans cette économie de rattrapage, tout était figé, on ordonnait les choses.
Donc là, qu'est-ce qui a changé ?
J'ai la faiblesse de penser qu'on peut passer à une économie plus libre d'innovation, où les rôles de chacun ne sont pas figés ab initio, mais peuvent évoluer. Très concrètement, par la loi, on va permettre demain à un bailleur social toujours de passer par un architecte. La loi l'imposera, mais dire la relation que lui aura avec l'architecte, c'est lui qui la définira. La loi ne dira pas, ne précisera pas quel est le rôle exact que l'architecte doit jouer entre le bailleur social et l'entreprise qui construit. Dans la vraie vie, tous ceux qui ont fait des projets savent très bien qu'un projet, on doit pouvoir s'adapter à celui-ci. Dans certains cas, vous avez ce qu'on appelle de la maîtrise d'ouvrage. Dans d'autres cas, vous avez de la conception-réalisation. Il faut laisser la liberté aux acteurs. C'est ça l'esprit et le sens de la loi.
Sans mise en concurrence des professions et des professionnels.
Mais la mise en concurrence, on parle de quelque chose de très précis. On parle des appels à manifestation et des concours d'architectes. Ça veut dire quoi derrière ces mots un peu techniques? Quand vous êtes un bailleur social et que vous construisez un immeuble, vous devez faire ce concours d'architectes. Tous les architectes qui ont été malheureux, qui n'ont pas remporté le concours, vous devez les indemniser. Et ensuite, une fois que vous avez passé ce concours, vous êtes dans une relation qui est complètement figée. Certains bailleurs sociaux peuvent se dire « moi j'ai un architecte en mon sein ». Ou moi je veux travailler de telle et telle manière avec un architecte. Ça n'est pas une remise en cause, en aucune manière que ce soit, du bien fondé et de l'importance du rôle des architectes. Mais c'est de laisser plus de liberté pour permettre là aussi de s'adapter au projet, de construire parfois moins cher, de construire parfois plus vite, mais surtout de faire confiance aux acteurs. Moi, ma philosophie d'action, c'est de faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens en faisant confiance.
Alors,
aux acteurs.
Vous parlez de confiance, vous parlez aussi de signaux positifs à envoyer. Il faut quand même avouer que tout avait plutôt mal commencé avec la baisse des appels de 5 euros annoncés. Une mauvaise décision, c'était même vos mots. Et en effet, un très mauvais signal. Est-ce que cette baisse a été validée? Est-ce qu'elle va s'appliquer? Vous en êtes où des arbitrages de Bercy sur cette question?
Cette baisse, elle a été décidée et votée l'année dernière. Pourquoi c'est, je l'ai qualifié de mauvaise décision, parce que c'est une politique de rabot. Et il n'y a aucune bonne politique qui peut être composée d'un simple rabot. Et donc on a fait, depuis lors, une vraie réforme des APL. Avec là aussi un exemple très concret, parlant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, quand on calcule vos APL, on prend en référence les revenus que vous aviez il y a 2 ans. Ça veut dire qu'une personne qui, il y a 2 ans, avait un travail, qui aujourd'hui est au chômage, n'a pas forcément aujourd'hui droit au niveau d'APL dont elle a besoin. Et donc la réforme qu'on porte, c'est une réforme de fond qui permettra demain de donner exactement à celles et ceux qui en ont besoin le bon montant des APL. Ça, c'est une réforme de fond. C'est une bonne réforme.
Mais le coup de rabot, c'est terminé, alors.
Une politique de rabot.
Ou pas, à
le coup de rabot, il
non,
a déjà.
Ça s'est passé, donc ça va s'appliquer aussi.
Exactement. Il a déjà été voté, appliqué. C'était une décision que nous avons votée l'année dernière, mais d'ailleurs, qui fait suite à une demande, à un arbitrage du précédent gouvernement, comme vous le savez.
C'est leur faute.
Non, c'est pas ce que je dis. Moi, j'assume toutes nos décisions. À la fin des fins, c'est notre majorité qui l'a voté. Mais ça repose sur un budget qui n'avait pas été le nôtre, un budget de l'année 2017 qui n'avait pas été celui que nous avions construit. Moi, ma conviction, c'est qu'une bonne politique, ça n'est pas une politique de rabot. Évidemment, c'est des politiques de fond qui, à la fin, sont plus justes, plus efficace.
Dans une dizaine de jours, Julien Normandie, le débat d'orientation budgétaire commencera à l'Assemblée. Hier, le quotidien Les Échos dévoilait les pistes du gouvernement pour boucler son budget 2019. Et selon le quotidien, l'emploi et le logement seront à nouveau fortement mis à contribution. Est-ce que le logement va éternellement être le parent pauvre de l'action gouvernementale ?
Non, le logement n'est pas et ne sera pas éternellement le parent pauvre. Mais vous savez, ce logement, c'est des chiffres qui sont abyssaux. Chaque année, dans le logement, on met 40 milliards d'euros. Est-ce que pour autant la situation, elle est convenable ? Évidemment non. Est-ce qu'on peut mieux faire avec ces sommes ? Évidemment oui. La réforme de structure dont je vous parle
Est-ce
sur les appels...
Est-ce qu'on peut faire mieux avec moi ?
La réforme dont je vous parle sur les appels, de donner à chacun exactement ce dont il a besoin, de fonder les appels sur les revenus de l'année N, les revenus actuels et non pas vos revenus d'il y a 2 ans. Il s'avère que c'est plus juste, c'est plus équitable et en même temps, ça fait faire des économies. Donc là, c'est un exemple très concret qu'il est possible de faire mieux, pas forcément avec plus d'argent.
Alors, à propos d'équité, allons voir du côté du logement social. 860 bailleurs sociaux, c'est énorme. 4,8 millions de logements. Une mesure est envisagée, regrouper les organismes HLM. Un article est particulièrement décrié, le 29, qui va permettre aux organismes HLM de vendre leurs logements, y compris dans des communes qui sont déjà loin de remplir leurs obligations. On pense à Neuilly, on pense à Saint-Cloud et à bien d'autres. Est-ce que c'est la fin de l'offre HLM dans ces communes résidentielles? Pour vous, Julien de Normandie, comment est-ce qu'elles vont à la fois rattraper leur retard et répondre à ces obligations, celles qui avaient été posées par la loi SRU, un quota de 25% de logements sociaux, quota dont elles sont encore très très loin.
Mais je dirais que c'est tout le contraire. Moi j'ai une conviction fondamentale, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en France. Vous avez près de 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement social. Et pourquoi c'est important la vente de logements sociaux ? C'est
d'abord pour renflouer les caisses ?
Non, c'est d'abord important pour les Français. Vous pouvez en interroger beaucoup qui vivent dans ces logements sociaux. Et beaucoup vous disent, mais pourquoi nous n'aurions pas le droit d'avoir accès à la propriété ? Et moi, je trouve que dans une société, c'est aussi très bien d'avoir des immeubles où vous avez à la fois des locataires et des propriétaires. C'est important, y compris dans notre société.
Mais il n'y a pas que les locataires qui seront possiblement les acheteurs de leurs logements sociaux. C'est une vente qui sera ouverte.
Oui, c'est ce que la loi prévoit déjà, que vous devez d'abord proposer au locataire.
Voilà.
Si le locataire refuse, vous devez proposer à une autre personne éligible au plafond de logements sociaux. Et à ce moment-là, si ces deux personnes refusent, à ce moment-là, vous pouvez proposer à un tiers d'acquérir ce logement. Et pourquoi c'est important aussi pour un bailleur social ? Parce que quand vous vendez un logement, en moyenne, vous en construisez 2 ou 3, en moyenne. Tout simplement parce qu'avec l'argent que vous récupérez, avec l'argent, la dette, comme on dit, que vous pouvez aller chercher auprès des banques, vous avez suffisamment de capitaux pour construire 2 ou 3. Vendre une partie de vos logements sociaux, ça n'est absolument pas réduire l'offre de logements sociaux. Ceci est faux. Ça veut dire au contraire se donner les moyens de pouvoir construire plus, de pouvoir construire encore davantage parce que les Français en ont besoin.
C'est tout ce propriétaire qui avait été porté aussi par Nicolas Sarkozy. On a vu les difficultés que ça a pu créer dans des pays du Sud comme l'Espagne. C'est pas une solution à tous les problèmes, loin de là. Ça veut dire qu'après, le parc locatif se réduit de plus en plus et qu'il est très difficile pour des primo-accédants de trouver une manière de se loger. Comment vous allez faire pour faciliter l'accès au logement pour les plus démunis, pour les jeunes aussi, qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à trouver un logement?
Vous savez, moi je suis pas du tout un ayatollah du tous propriétaires, mais alors pas du tout. Je pense que mon rôle, mon travail en tant que membre du gouvernement, c'est donner à chacun accès à ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Certains préfèrent, et c'est mieux pour eux, être locataires. D'autres préfèrent, et c'est mieux pour eux, être propriétaires. Mon boulot, c'est de leur offrir ces possibilités. Sur la mobilité, donner accès à des logements aux jeunes, à ceux qui sont aujourd'hui exclus du logement. On fait énormément de mesures fortes dans la loi. Un exemple, on crée de la mobilité au sein du logement social. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un logement social, vous l'avez et vous pouvez y rester à vie. Mais au bout d'un moment, vos enfants ont quitté votre logement, par exemple. Donc vous avez des chambres qui sont vides. Vous avez ce qu'on appelle une sous-occupation. Aujourd'hui, rien ne se passe. Vous restez dans cet appartement, parfois sous-occupé. Demain, par la loi, tous les 3 ans, le bailleur social devra se poser la question de votre situation familiale. Et quand vous avez des chambres sous-occupées, le bailleur social devra vous proposer un logement plus adapté à vos besoins, avec donc un loyer moins élevé. Et la possibilité ensuite de pouvoir prendre cet appartement plus grand pour l'offrir à une famille qui, elle, en a besoin. Pour les jeunes, on prend là aussi des mesures très fortes. Un exemple, le bail mobilité. C'est un nouveau bail concret. Ce bail mobilité, il est de 1 à 10 mois et il est à destination de tous ceux qui sont en mobilité. Les jeunes, par exemple, en année de césure, un stage de long terme. Les saisonniers, les personnes qui ont des contrats de courte durée. Et on crée un bail qui est à la fois très protecteur pour le locataire et très protecteur pour le propriétaire. C'est clairement une nouvelle réponse à un besoin de nos concitoyens.
Et cette mobilité, elle vaudra pour tous. On se souvient de cas emblématiques comme celui de Jean-Pierre Chevènement, par exemple.
La mobilité, pour moi, vous savez, elle dépend avant tout, mais avant toute chose, des besoins que vous pouvez exprimer à un moment donné. Quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas les mêmes besoins que quand vous êtes un travailleur. Aujourd'hui, moi, je n'accepte pas que plusieurs milliers de Français refusent un job, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au logement. Donc la mobilité, elle ne concerne pas que les plus démunis, elle concerne absolument tout le monde en fonction de leur projet de vie.
Julien Normandie, Françoise Nyssen était hier à Arles, sa ville, mais aussi celle des rencontres internationales de la photographie qui débutait là-bas hier. Le Canard Enchaîné a révélé des irrégularités lors des travaux au siège de la maison d'Actes Sud dans le centre classé de la ville. Une demande de régularisation tardive, très tardive. Un avis défavorable sur la poursuite de l'exploitation de certains locaux qui seraient restés lettre morte selon l'hebdomadaire. Une surélévation et des climatiseurs, hors normes. La ministre a déclaré hier dans le quotidien La Provence, je regrette cette négligence. Est-ce qu'elle a, selon vous, été victime de cette surréglementation, de cette inflation législative, cette inflation de normes que vous évoquiez ?
Très sincèrement, j'ai aucun élément sur le dossier que vous évoquez, absolument aucun, donc je me garderai bien de tout commentaire. Après, sur votre question plus largement, de savoir est-ce que les Français pâtissent de cette surréglementation, je laisse juger toutes celles et ceux qui nous écoute, mais je crois que effectivement, en France, nous ne sommes pas les champions du monde des normes simples. Nous ne sommes pas les champions du monde d'une réglementation agile. Nous ne sommes pas les champions du monde également de cette société de confiance entre l'administration et les Français.
Donc, la négligence, ça vous paraît tout à fait cohérent?
Non, c'est pas ce que je dis. La loi, elle doit être appliquée par tous. Évidemment, sur le dossier que vous évoquez, je n'ai absolument aucun élément. Mais de manière générale, moi, mon boulot, encore une fois, c'est de faire en sorte que, vous savez, le cadre de vie soit plus simple, que cette confiance entre l'administration et les concitoyens soit plus forte, et que, au final, on arrive là aussi à, parce que on libérera les énergies, parce que demain sera plus facile de construire, à apporter des solutions concrètes aux Français.
Alors, un élan qui a de l'allure. Une grande partie du dispositif prévu par la loi Allure a été conservée par votre loi Élan, dont la mise en place d'observatoires des loyers. Cet encadrement des loyers, mesure très attendue par les locataires, où est-ce qu'on en est? Et notamment dans les zones tendues, c'est-à-dire des zones où la demande est supérieure à l'offre, entraînant rareté et prix élevés. Pourquoi ne pas rendre obligatoire cet encadrement des loyers?
L'encadrement des loyers, c'est un sujet qui est complexe parce que vous avez deux chapelles. Vous avez une chapelle qui consiste à dire cet encadrement est absolument nécessaire dans la mesure où aujourd'hui, dans certaines zones tendues, les loyers deviennent intenables. Et puis vous avez une autre chapelle qui consiste à dire à partir du moment où on encadre, vous aurez de moins en moins de personnes qui désireront investir dans la pierre et qui donc désireront construire. Et donc là, vous créez aussi un autre problème. Moi, j'ai une approche qui est alors vraiment très pragmatique sur le sujet. J'ai beaucoup travaillé dessus et au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'études qui visent à démontrer ou qui arrivent à démontrer que cela marche ou que cela ne marche pas. Et donc, ma position, elle a toujours été la même. Il faut aller au bout de l'expérimentation. La loi logement permettra d'aller au bout de cette expérimentation. Si ça marche, on continuera, et si ça ne marche pas, eh ben on en tirera les conséquences et on arrêtera. Mais il faut aller au bout de cette expérimentation pour voir si oui ou non c'est un dispositif utile.
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie est notre invité jusqu'à 8h30 à retrouver après le journal de France Culture.